la ferraille.
Fantôme de Victor Hugo, une expédition mortelle, le fantôme de l'école, du bourdonnement dans les oreilles des Américains. Ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le Bureau des Mystères. Je suis Mathias.
Et je suis Charles. Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore familiers du concept de cette émission, il est très simple. Nous allons et nous devons répertorier tous les mystères qui parcourent le monde. Nous allons donc les répertorier, vous en parler et aussi un petit peu les commenter. Et
également les classer, hein. Sont-ils toujours des mystères ou non? C'est ce qu'on verra dans cette émission. Nous avons reçu quelques commentaires et merci à vous d'ailleurs d'avoir commenté le premier numéro, enfin le premier, le numéro 0 du Bureau des Mystères,
ouais, voilà, exactement.
Qui est sorti il y a maintenant 2 semaines. Donc on a évidemment lu tous vos messages avec attention, ça nous a fait très plaisir. Et on a aussi reçu nos premières propositions d'histoires. Donc soyez-en sûrs, ces histoires seront analysées, seront épluchées et feront peut-être l'objet de dossiers dans le Bureau des Mystères.
Et d'ailleurs, en parlant de dossiers, pour cet épisode 1, du coup, nous en avons beaucoup et je te propose, Mathias, de tout de suite partir au travail et de commencer avec notre première histoire.
Allez, c'est parti pour la première histoire.
Expédition mortelle. Au cœur de la chaîne de l'Oural en Russie, 9 étudiants ont été retrouvés morts après qu'une expédition ait mal tourné. 9, mais au départ ils étaient 10. Ils étaient 10, ces étudiants, et ils étudiaient où ? À l'Institut Polytechnique de l'Oural. Donc oui, il y a un Institut Polytechnique en Russie, près de la chaîne de montagne. Et ils sont partis donc pour une grosse randonnée, ces étudiants. Et cette histoire, pour que je la replace et pour que vous vous rendiez bien compte de quoi je parle, cette histoire commence en janvier 1959. Ces 10 étudiants sont composés de Igor Dyatlov, donc qui va diriger l'expédition, Zinaïda, Lyudmila, Alexandre, Roustem, Georgi, Louri, Nikolai, un autre Alexandre et un autre Louri.
Ça fait pas mal de monde.
Ça fait pas mal de monde, donc ils sont 10. Et donc, ils décident, pour le plaisir, de partir en expédition. Ils marchent en direction d'Otterten, donc qui est un sommet en fait, qui est une montagne, qui est la fin de leur expédition. Et voilà, l'expédition, on va dire, commence dans le dur le 27 juillet 1959. Pas du tout juillet d'ailleurs, janvier. 27 janvier 1959. Et directement, le lendemain, le 28 janvier, un des deux Louris tombe malade et renonce immédiatement à poursuivre l'expédition. Il va rentrer au village le plus proche, hein, ça ne fait que un jour du coup qu'il marche. Donc il renonce à l'expédition, il rentre au village le plus proche et laisse ses 9 coéquipiers du coup continuer sans lui. Et bien ce Louri sera le seul survivant de cette expédition. Puisque dans la nuit du 1er au 2 février 1959, donc cela fait plus de 3 jours que nos 9 compagnons marchent. Donc ils marchent, pour vous replacer, en janvier, dans la chaîne de l'Oural, il fait entre moins 20 et moins 30 degrés. Donc on n'est absolument pas sur des températures agréables ou quoi que ce soit. Donc dans la nuit du 1er au 2 février 1959, le groupe s'installe sur la pente d'une montagne relativement proche de leur but, donc relativement proche d'Otterten. Donc ils s'y installent. Et chose un petit peu étrange, il y avait une forêt 1 kilomètre plus bas, mais non, ils s'installent, ils campent à cet endroit-là, sur la pente de la montagne, donc un coin relativement peu aisé pour s'installer, mais qui sera ensuite expliqué par le fait que il voulait sans doute s'entraîner. Ils voulaient sans doute s'entraîner à pouvoir à installer en fait leur matériel à flanc de montagne. Et donc Dyatlov, qui est le chef d'expédition, avait annoncé un potentiel retour du groupe le 12 février. Donc je vous rappelle que là on est dans la nuit du 1er au 2 février. Ils sont partis le 27 janvier. Et il annonce un potentiel retour du groupe le 12 février, puisqu'il faut évidemment compter à la fois l'aller, mais aussi le retour, où peut-être ils pensaient aller moins vite, et du coup se laisser une marge assez grande. Et puis il avait annoncé que l'expédition ne pourrait durer plus longtemps. L'alerte de leur disparition sera donnée le 20 février, et ils seront retrouvés le 26 du même mois. L'enquêteur principal de cette affaire, Lev Ivanov, raconte notamment que leur dernier campement présente une tente et que cette tente est déchirée de l'intérieur, mais que aucun des corps des 9 étudiants qui ont continué leur route, hein, puisque Loury avait fait marche arrière immédiatement, aucun corps n'est présent autour de la tente.
Alors, c'est extrêmement... déjà, c'est un peu flippant, mais comment ça se fait qu'aucun corps n'était retrouvé dans la tente, étant donné que tu disais qu'on était sur des températures de moins 20, moins 30 degrés? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas au chaud, en fait?
Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas au chaud? Alors déjà, parce qu'il y avait sans doute absolument pas de chaud, mais surtout, pourquoi ouais, ne pas être autour du campement? Ça, on ne le sait pas encore. L'enquêteur pour l'instant n'a pas de réponse à ça, et d'ailleurs il n'y aura que des hypothèses, il n'y aura pas de réponse. Mais donc, comme je vous le disais, une forêt est présente environ 1 km plus bas, et à partir du campement, par contre, ce que trouve Ivanov, ce sont des traces de pas. Il explique qu'il y a des traces de pas qui correspondent à un groupe de 8 à 9 personnes qui se dirigent vers la forêt.
Donc ça pourrait être l'intégralité du groupe, en fait.
Exactement, ça peut être l'intégralité du groupe. À partir de ça, les deux premiers corps sont retrouvés à la lisière de la forêt. Et à la lisière de la forêt, chose importante, il y avait un pin, un arbre, un pin géant. Et les deux corps sont en sous-vêtements, pieds nus. On peut imaginer, enfin on peut à partir de là se figurer un début d'histoire, quelque chose les a réveillés, ils ont eu suffisamment peur pour ne pas s'habiller, mais en sachant que du coup on imagine une menace de mort vraiment imminente, puisque ils sont à peu près sûrs, ils sont tous expérimentés, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la totalité du groupe a déjà fait de nombreuses expéditions, donc c'est pas des rigolos, hein. Ils savent exactement ce qu'ils font, donc pour partir... En déchirant leur tente, si tant est que ce soit eux qui l'aient déchiré, en déchirant leur tente de l'intérieur et en prenant le parti de partir en sous-vêtements, pieds nus, quand il fait moins de 30 degrés en pleine nuit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a dû les effrayer. Autre élément étrange, des branches de l'arbre géant, donc du pin très grand qui est à la lisière de la forêt, sont retrouvées brisées, donc ce qui laisse à penser que au moins une des personnes a tenté de grimper à l'arbre pour échapper à quelque chose. Donc pour l'instant, on a trouvé 2 corps. 3 autres corps, dont celui du chef d'expédition, sont retrouvés entre le camp qu'ils avaient monté et la forêt. Donc parmi les noms que je vous donnais tout à l'heure, Rustem est retrouvé avec le crâne fracturé, sans pour autant qu'il n'y ait de traces de coups.
Donc, est-ce que ça pourrait être une chute, par exemple? Il aurait pu tomber sur une pierre et se fracturer le crâne?
Ça pourrait, mais à ce moment-là de l'année, il y a un minimum d'un mètre de neige. Donc, en principe, s'il arrive à se maintenir au-dessus de la neige, il y a peu de chances pour qu'en tombant, il se fracture le crâne sur une pierre. Surtout que la pierre produit un choc suffisamment précis pour qu'on voit l'endroit du choc. Là, il n'y a pas de trace de choc, mais il y a un crâne fracturé. Et donc on est sur un total, pour l'instant, de 5 corps.
D'accord.
Ils étaient 9 au départ, on en a retrouvé 5 avec des blessures, donc pour l'instant, encore difficile à expliquer. Il aura fallu 2 mois supplémentaires aux enquêteurs pour retrouver les 4 autres corps. Et les 4 autres corps étaient ensemble, ils étaient dans un ravin à quelques centaines de mètres de l'arbre à côté duquel ont été retrouvés les premiers corps. Dans les quatre personnes restantes qui ont été découvertes dans le ravin, Nikolai a également le crâne fracassé. Alexander a les côtes complètement éclatées. Et Ludmila aussi a elle aussi des côtes éclatées. Mais surtout, détail beaucoup plus perturbant, sa langue avait disparu.
Ok.
Et c'est pas fini.
Donc là, on est dans tout autre chose qu'une thèse de l'accident, quoi. Parce que si la langue a disparu, ça peut être quasiment qu'humain. Enfin, ça peut être qu'une personne qui l'a enlevé, quoi.
Ça paraît difficile. On peut, avec nos dents, il est évidemment possible, par accident, de se sectionner la langue. C'est possible. Mais que la totalité de la langue ait disparu, c'est très compliqué.
Et puis un animal ne ferait pas ça. Un animal ne va pas récupérer juste la langue d'un corps.
Ça paraît en effet assez étrange. Mais c'est pas fini. Les quatre derniers que l'on a retrouvés dans le ravin, contrairement aux cinq premiers qui ont été retrouvés pieds nus, en sous-vêtements, les quatre derniers ont été retrouvés habillés avec les vêtements qui normalement appartenaient aux cinq premiers.
Ok, donc là on est dans un tout autre niveau de mystère là. Là, sur le papier, ça n'a aucun sens.
Non, ça n'a aucun sens parce que on se dit... moi, pour l'instant, je vois deux hypothèses. Une fois arrivé à cette étape-là de l'histoire, je vois deux hypothèses. Je vois, grosso modo, les quatre derniers ont entendu ou se sont échappés en premier au moment où il y a eu le problème au niveau de la tente et ont pris les premières affaires qui leur tombaient sous la main. Et du coup, ils ont pris les affaires des autres qui n'en avaient plus. Et à ce moment-là, ils ont réussi à s'échapper et du coup ont été retrouvés à d'autres endroits. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que du coup, ils ont consciemment pris les affaires des autres et qu'ils se sont habillés avec. En sachant qu'ils se sont habillés, la manière dont ça a été retrouvé, c'était, il n'y avait pas de logique, il y en avait qui avaient un pantalon, il y en avait qui avaient un manteau de fourrure, il y en avait qui avaient juste des pulls enroulés autour des pieds.
Ah oui, d'accord, c'est très étrange quand même, c'est pas la manière dont tu t'habillerais, même si tu devais t'habiller en urgence, tu mettrais pas un pull à tes pieds, quoi.
Oui, non. Donc la deuxième hypothèse, que jusque-là je vois dans cette histoire pour le cas de ces corps-là, c'est qu'ils ont enlevé les vêtements des 5 premiers. C'est-à-dire que les 5 premiers avaient peut-être réussi à s'habiller, sont morts, et les 4 derniers leur ont, du coup, ne pouvant peut-être pas remonter jusqu'à la tente, ou n'ayant peut-être pas d'autres vêtements, n'ayant peut-être pas retrouvé leurs autres vêtements, ont pris les vêtements de leurs 5 premiers amis.
Mais tu peux me rappeler comment sont morts ceux qui ont été retrouvés au pied de l'arbre? Il y en a un qui avait le crâne enfoncé.
Voilà. Alors il avait le crâne fracturé, mais pour autant ce n'était pas une blessure mortelle. C'est-à-dire qu'il avait potentiellement le crâne qui était fissuré, sans pour autant que ce soit létal au moment où il a reçu le choc.
Puisque, comme plus je l'ai dit, il avait pas froid, c'est ça ?
Exactement. L'enquête conclut pour l'instant que les cinq premiers sont morts d'hypothermie.
D'accord. Et donc les quatre autres, donc un qui avait le crâne lui aussi éclaté, celle qui n'avait plus de langue, donc on soupçonne, j'imagine, une hémorragie suite à ça, ou c'est pas ça qui l'a tué ?
Alors on le sait pas. On le sait pas du tout, je sais pas si c'est mortel, mais en tous les cas, il y a eu de nombreux chocs. L'enquêteur, Lev Ivanov, a mentionné un peu, pour donner une petite idée, il a dit c'est comme si on avait mis quatre personnes dans un accident de voiture. C'est-à-dire que des fois, il y a des chocs, il y a des membres, des parties du corps qui sont brisées, sans pour autant que le choc soit clairement identifiable. Ça peut être la ceinture de sécurité à grande vitesse qui brise des côtes. Enfin, il peut y avoir, quantité de choses qui font que les corps se sont retrouvés dans cet état-là.
D'accord. Et quelles sont les théories, du coup, sur ce qui a pu se passer sur ça? Parce que j'imagine qu'il y a dû y en avoir pas mal qui ont dû être échafaudés pour essayer d'expliquer la situation.
Il y en a eu pas mal, notamment une qui me paraît à la base, enfin qui me paraissait à la base être la plus probable, c'est tout simplement la théorie d'une avalanche. Ils sont expérimentés, c'est pas des rigolos, mais à ce moment-là, enfin à ce moment de l'année, le passage qu'ils ont traversé est catégorisé comme étant le plus dur possible pour des randonneurs en expédition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau au-delà, en termes sur l'échelle des difficultés, il n'y a pas de niveau au-delà que ce qu'ils ont traversé là. Donc on peut supposer que, en plus c'est un moment de l'année tout simplement où il neige, où il y a beaucoup de neige fraîche, on peut supposer qu'une avalanche, un bruit d'avalanche les a réveillés, et qu'ils n'ont même pas pris la peine d'ouvrir les tentes, qu'ils les ont déchirées, qu'ils sont partis le plus vite possible. Mais à ce moment-là, on suppose que du coup ça ne les a pas tous emportés de la même manière, puisqu'il y aurait deux groupes qui se seraient constitués, et que le premier groupe serait mort, et que le deuxième groupe serait après revenu chercher les vêtements.
Et ça explique pas, en tout cas, enfin, ça expliquerait pas mal de choses, mais ça expliquerait pas notamment pourquoi il y en avait une qui avait plus de langue, par exemple.
Ça semble assez difficile, en effet.
C'est pas une avalanche qui va faire ça.
Enfin, non, pour toutes les blessures, l'avalanche est l'hypothèse qui revient le plus et qui est de loin la plus probable, hein, puisqu'une avalanche, enfin, littéralement, peut être encore beaucoup plus violente qu'un accident de voiture. Par contre, l'avalanche n'explique pas une chose, c'est que tous les vêtements portés par le deuxième groupe, donc de quatre dans le ravin, qui les avait pris au premier groupe, sont tous radioactifs. Ils ont
Ils ont fait des tests sur ce qu'il y avait.
Lev Ivanov était venu avec un compteur Geiger. Et il raconte qu'au moment où il a approché le compteur Geiger des vêtements, il s'est complètement affolé. Le compteur Geiger s'est complètement affolé. Tous les vêtements présentaient de fortes traces de radioactivité.
Mais toutes ces informations-là, on les a comment, en fait ? Qui c'est qui a consigné tout ça ?
Alors, pour la première partie, le groupe tenait un carnet de bord.
Donc le groupe qui est parti, jusqu'à l'accident, voilà.
Jusqu'à l'accident, on sait exactement à quelle date ils étaient, enfin quel lieu, voilà, on sait exactement. Pour la deuxième partie, il s'agit de l'enquête, tout simplement.
D'accord, donc c'est consigné quelque part que les vêtements étaient radioactifs.
Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est
parce qu'on lit souvent des histoires comme ça qui sont un petit peu exagérées, parce que j'avais entendu parler de cette affaire une fois où il disait qu'il y avait des changements de couleur sur la peau, etc. Et il paraîtrait que c'était en fait une exagération de l'histoire vraie, ça.
Alors ça, c'est pas consigné dans l'enquête, ce sont des proches des victimes qui étaient présentes du coup aux funérailles et qui ont vu les corps et qui en fait ont trouvé très étrange que les corps soient très bronzés, les corps de toutes les victimes étaient très bronzés, voire pour certains carrément orange, et que leurs cheveux en revanche soient devenus tout gris.
Donc ça, ce sont des proches
qui se sont étonnés au moment des funérailles de voir la couleur de la peau qui avait visiblement beaucoup changé et la couleur des cheveux.
D'accord. Écoute, t'as d'autres informations sur ta affaire ? Parce que c'est hyper intéressant, je pense que ça m'intéressait pas mal de monde.
J'en ai encore beaucoup.
Eh bien, je t'en prie, déroulé, et si t'as des livres à conseiller aussi, après, pour ceux qui voudront en savoir plus, tu pourras aussi lâcher des noms.
Autre fait un peu perturbant, il y a des restes de feu qui ont été retrouvés en bas du campement. Donc un feu qui a été fait après ce qui s'est passé au niveau de la tente. Ce qui indique donc qu'ils ne seraient pas tous morts au même moment, soit ce sont d'autres personnes, mais qui à ce moment-là n'ont pas signalé avoir vu des corps ou avoir vu la tente. Soit c'est le deuxième groupe de survivants qui du coup aurait fait un feu de camp, ce qui suppose également qu'ils étaient du coup en pleine possession de leurs moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui les a complètement affolés et qui les a fait sortir de la tente et qui les a rendus fous. C'est-à-dire que là, on est sur une explication peut-être un peu plus concrète, et c'est pas une psychose générale, c'est pas, je sais pas, un test de drogue, comme on a pu le voir avec Pan-Saint-Esprit, ce n'est pas l'armée russe qui teste des drogues dans l'Oural ou quoi que ce soit, ils étaient tous en pleine possession de leurs moyens. En revanche, l'hypothermie peut faire aux gens des choses assez stupides, notamment leur donner l'impression qu'ils ont très chaud. Une fois en hypothermie, le corps peut avoir l'impression d'être en état de chaleur excessive, et du coup, ce qui, d'un côté, pourrait expliquer le fait qu'ils se soient enlevés les vêtements, mais de l'autre, est assez peu probable, puisque ils étaient tous expérimentés et étaient tous conscients de ce qui se passait en cas d'hypothermie. Donc ça semble assez peu probable que l'hypothermie leur ait fait perdre la tête au point que le premier groupe enlève leurs vêtements. Donc on suppose qu'on leur a enlevé leurs vêtements. Ou alors qu'ils n'en portaient pas à la base.
Mais tout ça explique toujours pas l'histoire de la langue qui a disparu et des traces radioactives sur les vêtements.
Toujours pas. En revanche, il a été révélé au bout d'un moment que les officiels soviétiques ont demandé à Lev Ivanov, l'enquêteur, de clore l'enquête, alors que il venait de découvrir que des sphères volantes lumineuses avaient été aperçues dans cette zone en février et en mars 1959.
Donc on serait potentiellement sur des prototypes de la guerre froide, en fait.
Des prototypes ou autre chose, mais en tous les cas... Lev Ivanov s'est exprimé auprès du journal kazakh Leninsky Put. C'est une interview qui a été déterrée par le Times, et il disait, je cite, « Je soupçonnais à l'époque que ces sphères volantes étaient liées à la mort de ces gens, et j'en suis presque sûr aujourd'hui. D'autant plus qu'un autre groupe d'étudiants qui campait à 50 km de là, dans un endroit moins montagneux et beaucoup moins dangereux, hein. Il faisait juste du campement. Un autre groupe d'étudiants qui campait environ 50 km a raconté également avoir aperçu les fameuses sphères lumineuses. Et donc dans un témoignage, l'un d'entre eux a dit qu'il avait vu, et là encore je cite, « un objet circulaire brillant volé au-dessus d'un village » allant du sud-ouest vers le nord-est, le disque lumineux faisait quasiment la taille d'une pleine lune. Il était de couleur blanche-bleue, entouré d'un halo bleu. Le halo émettait des flashs aveuglants, comme un orage dans la nuit. Quand cet objet volant disparut à l'horizon, le ciel s'illumina à cet endroit pendant encore quelques minutes. » Donc là, on est en 1959... C'est difficile de supposer que l'ex-URSS possède des engins capables de faire ça.
Ça me semblerait très étrange, effectivement. Ou alors ils n'étaient pas au point. Et c'est pour ça qu'ils n'en auraient pas parlé publiquement, officiellement. Peut-être que... Alors, je vais peut-être échafauder une théorie qui existe déjà, je suppose. Peut-être que ça pourrait être un test de nouveaux véhicules volants qui ne fonctionnait pas bien, et une des conséquences du premier test aurait été la mort de ces gens, qui seraient passés peut-être trop près de l'appareil. Et ça pourrait être une explication. En tout cas, j'ai du mal à croire que ça puisse être des extraterrestres, par exemple, puisque là, sur ces témoignages-là, on a clairement affaire à la définition pure et simple de l'OVNI, hein, l'objet volant non identifié. Donc j'aurais du mal à croire que ça puisse être d'origine extraterrestre, quoique j'imagine que certaines personnes doivent le penser, mais c'est, oui, pourquoi pas un prototype de l'armée russe qui n'a pas marché, tout simplement.
C'est probable, c'est, en tout cas c'est disons une hypothèse qui peut s'entendre. La principale hypothèse rejoint ce que tu dis, hein, c'est vrai qu'ils se seraient retrouvés par inadvertance dans une zone d'essai. Donc soit d'armes chimiques, soit d'armes à neutrons. Et un nouveau type d'arme qui, en fait, au moment d'être utilisé, aurait provoqué des halos lumineux qui, avec l'atmosphère et le ciel tel qu'il est composé autour de ces montagnes, auraient effectué des reflets il y aurait eu des reflets qui se seraient vus à plusieurs dizaines de kilomètres au moment de ce test. Et malencontreusement, les neuf étudiants, du coup, auraient peut-être aussi été victimes, et là, on peut aussi supposer quelque chose en deux temps, que l'arme ait déclenché une avalanche, qui aurait eu soit un test, soit plusieurs. Le test aurait déclenché une avalanche, et du coup, l'avalanche est responsable des différentes liaisons, je vais y arriver, des différentes lésions sur leur corps et du fait qu'ils se soient retrouvés dispersés, mais la couleur orange, les cheveux gris et d'autres choses seraient peut-être liées à l'utilisation de ce type d'arme.
Mais toujours pas cette histoire de langue, j'y reviens.
Mais oui, non, l'histoire de la langue, c'est...
aucune théorie qui explique ça, quoi. Alors, et pourtant, c'est bien consigné dans les dossiers... Enfin, ça existe, quoi. On le sait, ça, c'est avéré, il n'y a pas de... D'accord. Donc, c'est surtout ce point-là, en fait, qui est très étrange.
Ouais.
Parce que moi, j'y crois volontiers, à cette histoire de test de l'armée. Mmh. C'est vrai qu'on sait que... Dans la plupart des pays, souvent l'armée fait des tests dans des zones reculées, dans des zones difficiles d'accès. L'armée française, par exemple, fait des exercices dans des zones un petit peu difficiles. Je sais que j'ai visité la pointe du Raz en Bretagne, par exemple. Je sais que c'est une zone où les militaires font pas des tests bactériologiques, non, mais ils s'entraînent, tu vois. Mmh. Donc c'est vrai que comme là, c'est un endroit extrêmement difficile, même pour les meilleurs randonneurs, tu peux te dire que ça peut être une zone assez privilégiée par l'armée pour effectuer des tests, des entraînements, ce genre de choses, quoi.
Exactement.
Donc c'est tout à fait possible.
Exactement, d'autant plus, et je conclurai là-dessus, que l'accès à cette région, après l'accident, a été interdit pendant 3 ans, et n'a été rouverte qu'en 1962.
Donc ça renforce encore plus l'hypothèse de tests de l'armée à cet endroit-là.
Exactement, puisque le gouvernement aurait... peut-être pour des raisons de sécurité, essayer aussi d'étouffer l'affaire, dire d'empêcher les personnes de faire d'autres recherches à ce niveau-là, et ne leur est rouverte du coup qu'en 1962. Donc une affaire qui possède un niveau de mystère que là j'ai envie de qualifier, c'est le niveau Laurence Boccolini du mystère.
Un niveau extrêmement élevé.
Un niveau extrêmement élevé.
Un niveau zone paranormale du mystère, effectivement.
C'est ça. Oui, puisque Laurence Boccolini était présentatrice d'une émission sur une chaîne de la TNT où elle présentait des phénomènes paranormaux. Là, je pense qu'on est, au niveau Laurence Boccolini du mystère.
Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour conseiller aux auditeurs. Je suis pas sûr que ce soit très très gars, parce que ça doit pas être la chaîne officielle de TF1 ou de NT1 ou je ne sais quelle chaîne. Mais sur YouTube, vous pouvez trouver des vieux numéros de zone paranormale qui circulent. Et je vous les conseille très fortement. C'est très drôle. Notamment celui sur les fantômes, les esprits et les possessions, qui est vachement sympa. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'on classe cette affaire finalement ?
Écoute, je pense que on n'aura pas les moyens d'en savoir plus. Lev Ivanov s'est un peu vu retirer l'enquête par les services russes. Aujourd'hui, il me semble en plus que le principal enquêteur est décédé et que l'affaire est restée en suspens et ne verra, à mon avis... Pas d'autres rebondissements.
Et c'est sûr que c'est pas nous, depuis notre petit bureau, qui allons malheureusement pouvoir en savoir
Hélas.
Plus sur cette affaire.
Ouais.
Du coup, passons à une autre. Un poltergeist dans l'école. Dans une très vieille école en Irlande, il y a un esprit frappeur qui entrait les couloirs à la nuit tombée. Et ce qui est surprenant, c'est que la caméra de vidéosurveillance a tout enregistré.
Elle a enregistré le fantôme ?
Exactement, alors pas le fantôme en lui-même, mais en tout cas ce qu'il a fait, puisque je précise que ce serait donc un poltergeist, un esprit frappeur, et que donc ce sont des fantômes qui font du bruit, un petit peu comme ce qu'on a pu entendre dans cette émission de temps en temps, parce que j'ai des poltergeists dans ce bureau qui font du bruit parfois. Donc oui, ce sont des esprits frappeurs, donc qui n'ont pas de forme humaine en tout cas, mais qui font un petit peu de grabuge, qui bousculent des objets, qui ont tendance à parfois gratter les murs, ce genre de choses, enfin tout ce qui est un petit peu flippant, mais où on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas le fantôme. Donc l'histoire là, elle se passe à Cork, en Irlande, Irlande terre de fantômes que l'on connaît, hein, pas autant que l'Écosse, mais quand même terre de fantômes, dans la plus vieille école de la ville, elle s'appelle Deer Park CBS, donc c'est une... C'est une école chrétienne, hein, c'est une école pour garçons chrétiennes, qui, même si elle est parfaitement rénovée, hein, c'est-à-dire que là, tu vois les images de vidéosurveillance, on dirait n'importe quelle école assez moderne, quoi, on dirait des couloirs d'un collège américain, tu vois. Sauf que l'école en elle-même, elle date du 19e siècle. Ah. Et il y a une vidéo qui a pas mal tourné sur Internet, ce sont des images de vidéosurveillance qui montrent des événements étranges qui ont eu lieu, qui auraient eu lieu, on verra ça plus tard. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier, à 3h06 du matin, très précisément. Et donc la vidéo montre un couloir de l'établissement qui aurait la réputation d'être hanté. Et donc en fait, il y a des caméras qui ont été mises, des caméras à détecteur de mouvement. Alors, pas du tout pour les esprits, hein, mais avant tout pour vérifier que personne ne s'introduise dans l'école la nuit. La vidéo s'est activée. Et donc ça donne lieu à comme ça, des images de vidéosurveillance où on voit à la 23e seconde une porte au fond du couloir qui se claque violemment toute seule. Ensuite, on attend 10 secondes, et à la 33e seconde, il y a une rangée de casiers qui commence à se balancer toute seule, d'avant en arrière, très brutalement, très brusquement, jusqu'à ce que la porte d'un casier s'ouvre et que son contenu soit projeté à l'extérieur, d'un coup. Et enfin, à 1 minute 22, il y a un panneau sol glissant au sol, et il s'envole d'un coup, comme si quelqu'un lui avait mis un coup de pied, quoi. Sauf que, bah, très clairement, sur les images, il n'y a personne.
On ne voit que les objets en train d'être bougés, mais on ne voit rien de ce qui peut les animer.
Exactement. C'est comme si, effectivement, un poltergeist était dans ce couloir et s'amusait à foutre le bordel en pleine nuit, quoi. C'est très très surprenant. Alors, forcément, la vidéo a pas mal tourné, avec beaucoup de gens qui ont eu peur en voyant les images, ce qui se comprend quand on a un petit peu peur des esprits, des poltergeists, et qu'on y croit à 100%. Et ces gens ont pu continuer à avoir peur parce que le Daily Mail, le célèbre quotidien britannique, est allé interviewer le proviseur de cette école. Donc c'est une école, collège, hein, c'est le second grade en Irlande. D'accord. Donc c'est, il n'y a pas vraiment d'équivalent comme ça en français. C'est, oui, voilà, c'est école-collège. Et donc le proviseur, lui, a entretenu le mystère. Et il a dit au Daily Mail que l'école date effectivement de 1828 et que les gens ont toujours entendu des bruits étranges et qu'ils trouvent parfois même des papiers jetés en vrac dans l'école. Et ils se sont toujours dit, bon, c'est peut-être un élève, mais c'est, là, il lui dit, c'est la première fois qu'on prend sur le fait ces phénomènes étranges commis par personne, commis par un esprit, commis par quelque chose d'invisible. Et il a précisé que le couloir en question, où il y avait la vidéosurveillance, avait la réputation d'être lui-même hanté. Il a même dit que le chien d'un des professeurs de l'école refuse systématiquement de passer par cet endroit-là. Comme s'il y avait quelque chose de mal, quelque chose que le chien ne voudrait pas aller voir, quoi. Et on sait que la plupart du temps, ce que disent les gens qui croient au paranormal, ils disent que effectivement les animaux auraient un sens en plus, qui sentirait du danger ou qui sentirait en tout cas la présence d'esprit, et c'est pour ça que quand ils refuseraient d'aller quelque part, ce serait pour une bonne raison que nous on voit pas, quoi. Alors là-dessus, on pourrait se dire, est-ce que tout ça c'est du vrai, est-ce que tout ça c'est du bidon? Le proviseur lui dit que non, il a dit que si c'était un canular, ce serait quand même extrêmement difficile à mettre en place.
Il est un peu chelou quand même ce proviseur.
Oui,
je le trouve un peu bizarre de vouloir entretenir le mystère.
Mais c'est ça qui est quand même assez surprenant, c'est que généralement, une école, elle fait pas sa communication sur des phénomènes paranormaux qui s'y dérouleraient.
Déjà, une école ne fait même tout simplement pas sa communication, il n'y a pas de communication.
Je précise que c'est quand même une école privée, une école catholique, donc voilà, après, il y a ça aussi qui rentre, mais c'est d'habitude... Le proviseur représente l'autorité, représente l'esprit cartésien, représente le... Voilà, il n'a pas à entretenir le mystère, il a plutôt à essayer d'aller chercher des solutions plausibles. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il entretient à fond le mystère, jusqu'à aller dire que le chien d'un des profs ne passe pas par cet endroit-là, enfin... Et à dire que si c'était un canular, ce serait compliqué à mettre en place.
Oui, puis c'est d'autant plus bizarre qu'une école catholique qui fait sa communication sur le fait qu'il y a potentiellement le démon en son sein... C'est un peu étrange.
Oui, exactement. Mais bon, on peut pas écarter quand même que ce soit un canular. Moi, c'est en tout cas ma thèse principale et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais expliquer pourquoi à nos chers auditeurs, puisque cette histoire est quand même assez étrange et elle aurait pu rester mystérieuse si justement il n'y avait pas eu toutes ces interviews par la suite dans différents médias locaux, dont le Daily Mail, le Daily Mail irlandais, enfin l'édition irlandaise du Daily Mail et l'édition irlandaise du Times notamment, s'il n'y avait pas eu toutes ces interviews par la suite, ça aurait pu rester mystérieux, mais là, ça sent vraiment pas très très bon. On sent que Deer Park CBS a essayé de faire tout simplement le buzz, quoi. Parce qu'ils ont une chaîne YouTube, ce qui est assez inhabituel pour une école, sur laquelle il n'y a uniquement deux vidéos.
Ah, le premier c'est un lip-dub ?
Putain, c'est pas loin. C'est un mannequin challenge.
Ah oui, évidemment, ils sont plus 2017, 2016-2017, évidemment.
Qui, lui, n'avait pas du tout marché. Et, comme par hasard, quelques semaines plus tard, sort cette vidéo de vidéosurveillance, comme ça, d'un coup, qui en est aujourd'hui à plus de 10 millions de vues.
Je t'avoue qu'une institution qui poste elle-même, c'est-à-dire que la vidéo aurait pu fuiter par d'autres canaux sur Internet, mais que l'institution poste elle-même la vidéo étrange, clin d'œil, ça me semble en effet un petit peu suspect.
Et tu vas voir que c'est encore plus suspect par la suite, parce que le proviseur a accordé une interview au Independent irlandais, et je vais te lire sa citation, c'est extrêmement savoureux. Nous ne pouvons pas expliquer cette vidéo, mais nous invitons les gens qui veulent se faire leur propre opinion à nous rejoindre le 29 octobre prochain, car nous organisons un événement à l'école qui s'appelle Fear Park.
Et l'entrée coûtera 12 euros.
Alors, un petit peu moins quand même, l'entrée coûtera seulement 5 euros, mais c'est effectivement une soirée pour faire la promotion de l'école. Il y a une page Facebook qui annonce l'événement, qui incite les gens à venir, et la tagline c'est « Venez visiter l'école la plus hantée du monde le 29 octobre prochain, venez à notre soirée squelette, venez visiter le labo de Frankenstein, voir nos clowns effrayants, nos zombies en quarantaine, notre... beaucoup de choses comme ça, je lisais en anglais en même temps, c'est notre cimetière, voilà, c'était le mot graveyard que j'arrivais pas à traduire, et notre fameux corridor, notre fameux couloir que l'on voit dans la fameuse vidéo YouTube. » Donc ils font leur com à fond là-dessus. Et au début, je trouvais ça mystérieux. J'ai ensuite lu les interviews et découvert l'existence de cet événement Fear Park. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. On est obligé de classer l'affaire et de dire que c'était encore une fois un joli coup de pub.
Un joli coup de pub. Est-ce que le proviseur ressemblait à Skinner dans Les Simpsons ? Moi, je l'imagine exactement comme Skinner.
Écoute, je suis extrêmement déçu, malheureusement les articles ne le mettent pas en photo.
Ah,
et j'aurais bien aimé voir s'il ressemblait à un personnage de série,
ouais,
ou un personnage de La Folle Journée de Ferris Bueller. J'aurais bien aimé voir son visage à ce monsieur, qui a l'air assez sympathique pour organiser une opération de com' comme ça pour son école. Ça doit être un rigolo, quoi.
Tu sais comment je l'imagine ? Je l'imagine, ouais, comme Skinner dans Les Simpsons, et dans son tiroir, juste à droite quand il est assis sur son bureau, dans son tiroir, des bobines de fil invisible. Tu vois, il tirerait hors champ le proviseur, c'est-à-dire que c'est même pas quelqu'un qui ferait le truc à sa place, c'est littéralement le proviseur qui tirerait les portes, qui aurait attaché des petits fils invisibles à un peu tous les éléments du couloir et tout, qui ferait...
Proviseur qui se la pète un peu d'ailleurs, parce que quand tu relis l'interview, il dit que que c'est extrêmement difficile à mettre en place si jamais c'était un canular.
J'en sais quelque chose, c'est particulièrement difficile à monter.
En tout cas, j'incite nos auditeurs à aller regarder la vidéo qui est dispo un peu partout. Hein. Vous tapez Haunted School Irlande, vous la trouvez assez facilement sur YouTube. Ou alors vous allez directement sur le compte Facebook de l'école. Donc c'est Deer Park, D-E-E-R-P-A-R-K. Donc le parc des je sais plus comment traduire cet animal, les deers, les cerfs, voilà. Le parc des cerfs. Donc Deer Park CBS, et donc là vous retrouverez leur de vidéo, donc leur mannequin challenge qui n'est pas très réussi, et cette espèce de poltergeist, en tout cas c'est comme ça qu'ils le présentent, qui lui pour le coup est plutôt réussi, et on salue, si c'était l'œuvre des professeurs de cette école, et ben ils se débrouillent pas trop mal en After Effects et en montage vidéo.
Bon, du coup on peut classer ?
On peut classer.
Du bourdonnement dans les oreilles des Américains.
Une vingtaine de diplomates américains en poste à Cuba auraient été affectés entre janvier et août dernier par de mystérieuses attaques, des attaques plutôt violentes puisque elles ont entraîné perte d'audition, vertige et maux de tête. Donc, comme je vous le dis, cette histoire donc, se déroule à Cuba. Cuba, pour la petite, partie historique, hein, depuis 2012, entretient des relations un petit peu moins tendues avec les États-Unis. Donc le pays était sous embargo américain depuis février 1962. Hein, pour les connaisseurs et connaisseuses en histoire, on rappelle en 1961 le débarquement de la baie des Cochons. Est-ce que tu sais ce que c'est, Mathias, le débarquement de la baie des Cochons ?
Oui, oui, bien évidemment.
Bien évidemment.
Je me souviens très bien de mes cours d'histoire géo.
Qui était planifié donc, par le président Eisenhower. Donc ce qu'il avait fait, Eisenhower, c'est qu'il avait fait entraîner par la CIA. Et là, tu dis encore la CIA.
Je pense qu'on va parler de la CIA dans tous les épisodes à ce rythme-là.
Ça va être le... Ouais, je pense que ça peut devenir un motif récurrent.
De toute façon, s'il y a un truc bizarre qui implique un gouvernement, c'est toujours la CIA. C'est toujours la CIA.
Et donc, il avait fait entraîner par la CIA donc, quelques 1400 à 1500 exilés cubains. Donc, des personnes qui étaient parties de Cuba... à cause de l'embargo, enfin qui voulait partir vivre aux États-Unis. Il les avait entraînés pour les faire revenir et pour renverser le nouveau régime à l'époque mis en place par Fidel Castro. Et là, bon, bah, comme tout le monde le sait, gros fail, cela ne va pas du tout marcher puisque Fidel Castro restera encore en place pendant bien des décennies. Et donc c'était Barack Obama qui avait, notamment grâce à son énorme swag, dégelé les relations avec la Havane, entre Washington et la Havane, avec carrément du coup un arrêt de l'embargo en 2015. Mais Vlatipa qu'entre fin 2016 et août 2017, donc pour replacer rapidement, Donald Trump a été élu en novembre 2016, est entré en fonction en janvier 2017, et entre fin 2016 et août 2017, donc jusqu'à récemment, plusieurs personnes travaillant à l'ambassade des États-Unis, donc à Cuba, ont été victimes de symptômes, on va dire, pour le moins étranges.
Alors, merci pour ce mini-épisode du Dessous des Cartes qui nous a permis de bien remettre en position quelle est la situation entre les États-Unis et Cuba. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on commence avec ton histoire qui, donc, est extrêmement mystérieuse.
Ah oui, bah, au niveau de mystère et de danger aussi, comme on va le voir, qui est plutôt élevé. Puisque, comme je le disais, donc, les symptômes sont plus ou moins étranges, d'autant plus que, ça fait partie du mystère, toutes les personnes, certes, travaillent à l'ambassade américaine, mais vivent à des endroits différents, mangent à des endroits différents. Donc voilà, c'est assez, disons, compliqué de trouver quelle est la cause de ces symptômes, qui sont, pour rappel, donc une perte temporaire, voire définitive, de l'audition. Donc il y a des personnes qui sont retrouvées complètement sourdes, des problèmes d'équilibre. Là, vous vous dites, non, ce n'est pas dû à l'alcool, hein, évidemment, ce n'est absolument pas dû à l'alcool, ni au mode de vie de ces personnes-là. Des pertes de sommeil et des troubles de sommeil, des gens qui n'arrivent plus, des personnes travaillant à l'ambassade américaine, qui n'arrivent plus à dormir. Des maux de tête, qui ont parfois entraîné jusqu'à des vomissements. Et des liaisons cérébrales traumatiques multiples.
Ça va jusqu'aux lésions cérébrales, carrément.
Ça va jusqu'aux lésions cérébrales. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui peut causer tout ça ? Les relations entre Cuba et les États-Unis se retendent à nouveau. On attaque des personnes qui travaillent à l'ambassade des États-Unis à Cuba. Donc, on voit bien le contexte politique là-dessous, mais qu'est-ce qui peut causer tout ça ? La première hypothèse qui a été mise en avant, c'est potentiellement un système d'écoute qui serait défectueux. C'est-à-dire un dispositif qui sert à écouter, donc à espionner, un dispositif d'espionnage qui, en étant défectueux, aurait, au lieu d'enregistrer des sons, aurait émis des sons basse fréquence qui auraient pu engendrer ces symptômes-là. mais ça suppose que, grosso modo, ce soit involontaire. Or, en fait, les nouvelles hypothèses montrent que ce serait pas tout à fait le cas. Et certains parlent maintenant d'attaques acoustiques. Est-ce que tu sais ce que c'est, Mathias ? Des attaques acoustiques.
Alors j'en ai absolument aucune idée, alors je me demande si c'est pas une version améliorée de ces trucs, tu sais, qui existaient quand, à l'époque où on était au lycée, où c'était des ultrasons qu'on envoyait et certaines personnes pouvaient les entendre et d'autres non, et quand tu l'entendais pas, ça te faisait extrêmement mal à la tête.
On avait ça au lycée ?
Ah mais moi ça existait, je me souviens qu'il y avait des mecs qui avaient ramené ça, c'était à la même époque où les gens jouaient avec des lasers dans la cour de l'école. Il y avait aussi ce truc où c'était le jeu, est-ce que tu vas l'entendre ou pas ? Et puis des fois, moi par exemple, j'arrivais pas à les entendre. Donc il y avait des gens que je connais qui entendaient ça. Ça évoquera peut-être des souvenirs à des auditeurs parmi nous qui ont déjà eu affaire à ce genre d'outils. Mais je me demande si c'est pas une version améliorée de ça, enfin utilisée en tout cas par des personnes néfastes pour assouvir leur sombre dessein.
Et alors, ouais, sauf que il y a en partie de ça en effet, puisque ça a trait au son. Sauf que là, en ultrason, les fréquences sont du coup très hautes. C'est des fréquences extrêmement aiguës.
Bah, je crois que
tellement aiguës qu'on ne les entend pas. De toute façon, les dispositifs, je pense qu'on amène au lycée, enfin qu'on amenait au lycée, j'en ai jamais eu des comme ça, mais n'étaient absolument pas capables d'émettre des sons en trop basse fréquence.
Oui, et puis je pense qu'ils ne pouvaient pas faire des lésions cérébrales aux gens aussi.
J'espère.
C'est juste un petit peu dérangeant.
Et ben alors ouais, t'as une bonne, en effet, c'est à peu près ça, sauf que c'est complètement l'opposé dans le spectre sonore. C'est-à-dire que ça consiste, en fait, les attaques acoustiques, aussi appelées attaques soniques, donc rien à voir avec le hérisson bleu, hein, ça consiste à émettre sur des fréquences extrêmement basses des ondes très désagréables pour l'oreille humaine. Et elles sont à la fois suffisamment désagréables et suffisamment basses pour qu'on ne les entende pas, et que du coup les liaisons en fait ne soient pas détectées. On n'a pas mal immédiatement lors d'une attaque acoustique. C'est quelque chose qui peut se construire un peu sur le long terme. Et ça m'a fait penser notamment, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Mathias, mais ce qu'on appelait pendant un moment, c'était la mode, la fréquence sombre.
Ah, ça vient pas de la fréquence de South Park, peut-être, ça ?
Oh, bordel ! Hé, j'ai trouvé, les mecs, j'ai trouvé ! C'est vrai ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ah bah, je vous l'avais dit, hein, ils en parlent là-dedans. Le bruit marron, regardez.
Oh, oh putain, Cartman !
Fréquence oscillatoire provoquant le relâchement des sphincters. Vous voyez ? Ça veut dire chier dans son froc. Le bruit marron se situerait à 17,5 en dessous de l'octave inférieure de mi bémol. Donc, ça veut dire ça ?
On s'en fout, hein, faut trouver ce que c'est qu'un jeu, ils vont continuer à chercher.
Exactement, alors, j'ai retrouvé deux références rapides que j'ai vues dans la culture populaire. Il y a un épisode de South Park et le film Fatal.
Seulement quand il chantait, il faisait chier tout le monde.
Ça, il est pas le seul. Hein.
Ah non, non, pour de vrai.
Pour de vrai.
Quand il chantait, les notes qu'il faisait, on va savoir pourquoi. Elles étaient si basses qu'elles entraient, comme qui dirait, en vibration et qu'elles faisaient se relâcher les sphincters de tous ceux qui écoutaient. Les savants, ils ont appelé ça la fréquence sombre.
Ah, mais oui, avec
Michael Youn.
Très bon film, si on peut conseiller à nos auditeurs, ouais. Qui est beaucoup décrié parce qu'il y a Michael Youn dedans et que c'est Fatal Bazooka. Mais on vous conseille vraiment Fatal. Ouais. C'est un film super marrant.
Ouais. Ouais, on peut le dire honnêtement, on avait beaucoup rigolé en regardant le film.
Ah, et puis j'avais même la BO, qui est très sympa, notamment pour la chanson Autoclash, que je conseille à tous les auditeurs. Qui est Fatal contre Bazooka, Fatal qui se clash tout seul, et c'est vachement bien.
Album en partie écrit par Gérard Bast, notamment.
Ah oui, Gérard Bast, Death Winkle, c'est aujourd'hui de Gérard Bast tout seul.
Exactement. Et donc voilà, en fait, c'est un peu le même principe que la fréquence sombre, alors qui, dans la culture populaire, est une fréquence réglée, donc très basse, qui ferait faire caca à tout le monde. Genre, toutes les personnes qui l'entendraient ne pourrait pas s'empêcher de faire caca.
Alors, est-ce que c'était une légende urbaine ou est-ce que ça existait vraiment, cette histoire de...
C'est une légende urbaine. En revanche, les attaques acoustiques sont très proches de ça, en fait.
Mais elles sont bien réelles et c'est ça qui est inquiétant. Oui. Parce qu'elles ont des choses qui sont moins scato, rigolo, pipi caca. Là, on est vraiment sur quelque chose qui blesse les gens, quoi.
Exactement. Et c'est une technique qui a été explorée, attention, par les nazis. Puisque aussi il y a beaucoup de choses qui nous viennent des nazis.
Alors si je peux me permettre, c'est toujours soit la CIA, soit les nazis.
Soit les nazis, voilà. Et souvent même, ce qui est aujourd'hui le fait de la CIA a été inspiré par les nazis, apparemment. Donc technique explorée par les nazis, mais sans forcément qu'ils arrivent à mettre au point quelque chose de très probant. Et donc les attaques acoustiques ont commencé à être vraiment opérationnelles depuis les années 1960. Et donc depuis ces années 1960, elles ont été utilisées. Et alors ça, je ne savais pas, je l'ai appris en préparant cette émission. Elles sont utilisées, ces attaques acoustiques, par les États-Unis eux-mêmes durant les manifestations sur leur propre sol pour disperser la foule.
Ah, donc, ah oui, donc, ok, c'est... carrément, ouais. C'est donc...
Carrément.
Tu l'utilises sur ton propre peuple, quoi, donc c'est sympa.
Voilà, et alors à des niveaux qui sont sans doute, qui n'entraînent pas de surdité totale et pas de lésion cérébrale, hein. On doit avoir des pertes d'équilibre, des maux de tête, des choses comme ça, j'imagine, j'espère. Mais non, t'imagines en France, un peu à la valse, quoi, tu vois, genre, hop, on disperse la foule à coups d'attaques soniques.
Ce serait marrant, mais en fait pas du tout. Non, c'est vraiment pas drôle.
Sinon, c'est même pas drôle. C'est ça qui est ouf, c'est que quand j'ai lu ça, je me suis dit mon Dieu, mais
c'est horrible.
Ouais, c'est horrible quoi. Et en fait, l'avantage du coup de ces attaques, c'est que si tu veux empoisonner quelqu'un, il faut nécessairement que tu sois en contact avec de la nourriture que la personne va consommer. Enfin voilà quoi, pour les agressions physiques, c'est difficile de le faire à distance. Là, l'avantage, c'est que le système qui aurait été visiblement, et là c'est hypothétique, utilisé par des personnes, apparemment par les Cubains, pour nuire aux États-Unis, même si on verra après que c'est un petit peu plus compliqué que ça, eh ben, tu peux le placer à l'extérieur du bâtiment visé. T'as pas besoin d'être dans les murs pour le mettre en place. Et le fait qu'il y ait 16 personnes précisément qui étaient victimes de ces attaques porte à penser qu'elles ont peut-être aussi été victimes de ces attaques répétées aussi chez elles.
Ouais.
Que c'est pas uniquement sur le lieu de travail.
J'ai une question, du coup, c'est donc tu évoquais les Cubains, mais est-ce qu'on est sûr que c'est eux qui sont derrière tout ça ?
Eh ben, pas du tout, en fait. Déjà parce que politiquement, les Cubains ont assez peu d'intérêt, en fait, à attaquer les Américains depuis que l'embargo est levé. Il n'y a pas particulièrement de raison. Et il y a un expert dans ces technologies-là qui s'appelle Antoine Lefebvre qui a été interrogé par France Info. Et qui explique en fait, enfin qui pose la question, hein, plutôt que de donner la réponse, il pose la question, est-ce que l'attaque n'aurait pas été effectuée par les Américains eux-mêmes ? Et alors il dit, pourquoi les Américains feraient eux-mêmes ceci ? Et ben tout simplement parce que là déjà, ils n'arrivent pas à identifier la source de la fréquence. Ce qui en fait, selon Antoine Lefebvre, est extrêmement simple à faire. C'est-à-dire que les États-Unis ont complètement les capacités... Surtout que c'est des ondes qui ont été, enfin c'est des fréquences qui ont été qui ont fait des victimes entre janvier 2016, enfin pardon, entre janvier 2017 et août 2017. Ça fait quand même pas mal de mois.
Effectivement.
Et pendant ce temps-là, les Américains n'auraient pas réussi à identifier la source, ce qui donc selon cet expert est plutôt invraisemblable. Comme je le disais, c'est un système qui a été mis au point, qui est opérationnel depuis les années 60. C'est pas difficile d'identifier la source de ces fréquences. Alors, mais les Américains n'y arrivent pas.
J'imagine qu'il y a du coup un milliard de théories du complot qui ont dû se greffer là-dessus, du style les Américains feraient ça pour pouvoir accuser les Cubains, voilà. et avoir une raison de pointer du doigt les Cubains, peut-être.
C'est
sûrement
ça,
c'est des théories qui existent.
Voilà, c'est ce que dit Antoine Lefebvre. Il dit que... alors pour lui, c'est pas forcément une théorie du complot, parce que ça semble... C'est plutôt sous l'angle de l'hypothèse, c'est ce qui semble plutôt vraisemblable.
Oui, parce que c'est vrai qu'avec l'administration Trump,
voilà.
les théories du complot peuvent parfois se recouper avec des vraies hypothèses. Parce que,
exactement.
La personne à la Maison-Blanche est tellement folle que du coup, tu... Oui, il y a des fois, il y a des trucs qui te semblent... Tu te dis, c'est trop fou pour être vrai, c'est forcément une théorie du complot. Et en fait, c'est quelque chose que Trump aurait complètement pu faire, quoi.
Avec Trump, voilà, ça va être encore plus difficile de séparer le vrai du faux. Et donc, il pose la question, il dit, notamment, il avance comme idée que ça donne, comme tu disais, en fait, aux Américains des arguments pour refroidir les relations avec Cuba, puisque Trump aurait qualifié le régime cubain de trop dictatorial pour faire des affaires avec lui. Et donc voilà, et cette histoire a quand même un niveau de mystère, elle est toujours pas résolue aujourd'hui, hein. On est toujours dans l'attente, puisque des ambassadeurs cubains ont été renvoyés des États-Unis, donc c'était aussi peut-être un prétexte pour ça, et 16 personnes du coup ont été rapatriées sur le sol américain, et seulement un nombre réduit, en fait il y a un personnel minimum qui travaille à l'ambassade. C'est-à-dire que le personnel non obligatoire a été rapatrié aux États-Unis.
D'accord. Aujourd'hui. Donc du coup, le mystère n'est pas résolu finalement, puisqu'on ne sait, on ne saura pas avant, je pense, bien des années, qui est réellement à l'origine de cette attaque acoustique. Et l'affaire, on ne peut pas la classer, puisqu'il y a déjà eu deux cas depuis le début de l'année. Et il n'est pas impossible qu'on ait affaire à d'autres cas de ce genre dans les prochains mois.
Oui, voilà, exactement. D'autant que ces cas sont... comme je disais, peut-être diffus, c'est-à-dire qu'il faut sans doute que ces ondes touchent longtemps les personnes pour que les effets se fassent sentir. C'est peut-être pas quelque chose qui, pour les liaisons les plus... les lésions les plus graves, c'est peut-être quelque chose qui prend du temps. Tu vois ? Mm-hmm. Donc c'est peut-être des attaques qui sont encore aujourd'hui en cours, mais dont on ne connaîtra les effets que plus tard.
D'accord. Bon, et ben écoute, en attendant d'en savoir plus sur ces mystérieuses attaques acoustiques, je te propose qu'on passe à un autre dossier.
Les fantômes de Victor Hugo. Victor Hugo était passionné par l'au-delà et il s'est un petit peu trop approché du monde des esprits. En fait, certains fantômes l'auraient même hanté jusqu'à la mort. Ça, c'est une histoire qui est un petit peu flippante, donc cachez-vous. Je pense que toi, Charles, elle risque de te faire un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup d'esprits.
Ah ouais, c'est exactement. Et Victor Hugo.
Et Victor Hugo qui a eu très très peur, et on va partir depuis le début. Hein. C'est une histoire donc qui remonte, quand on parle de Victor Hugo, au 19e siècle. Hein, donc c'est pas neuf, hein, comme on dit. Mais elle est revenue dans l'actualité parce qu'il y a un écrivain et journaliste qui s'appelle Christophe Bourseiller qui a sorti un livre cet été qui s'appelle Et s'ils étaient tous fous. Où on apprend des choses étranges sur des grands génies. On apprend notamment que Marcel Proust était une ordure qui s'amusait à torturer des rats en cage. Bon, là, c'est pas la question. Et dans un des chapitres, on parle de Victor Hugo, justement, et de toute la période spiritisme de Victor Hugo. Car est-ce que tu savais que Victor Hugo avait eu une période spiritisme, toi ?
Alors non, d'autant plus qu'il ne mentionne pas spécialement de planche Ouija dans ses ouvrages, il me semble. Hein, c'est pas forcément un de ses thèmes...
Eh bien, c'est normal.
Un des thèmes qu'il caractérise.
C'est normal qu'il ne parle pas de planche Ouija, puisque ce serait faire un énorme anachronisme. En fait, Victor Hugo s'est intéressé au spiritisme au tout début du spiritisme. Alors, je vais commencer, c'était en 1852, juste après le coup d'état du prince Louis-Napoléon. Victor Hugo est parti s'exiler sur l'île de Jersey. Donc l'île de Jersey, si tu vois un petit peu, c'est battu par les vents, c'est isolé, c'est un petit peu inquiétant, déjà de base. Et là-bas, il loue une maison qui est effectivement isolée, et c'est là-bas qu'il découvre le spiritisme. Parce qu'à ce moment-là, on parle que de ça en Europe, parce qu'en fait, le mouvement vient de se créer aux États-Unis.
Tu veux dire que c'est un petit peu la mode.
C'est complètement la mode. En fait, il y a les Sir Fox, dont on reparlera sans doute dans cette émission plus tard, qui ont inventé le spiritisme 4 ans plus tôt aux États-Unis, et ça commence à ce moment-là à se développer en Europe, en fait. Donc c'est pour ça que Victor Hugo commence à se passionner par ça, et en septembre 1853, dans cette maison de Jersey, il décide d'organiser sa première séance de spiritisme. Donc dans cette première séance, l'espoir c'est évidemment de parler à Léopoldine, sa fille qui est morte noyée 9 ans plus tôt. Hein. Ceux qui ont étudié Victor Hugo au lycée se souviennent de cette tragique histoire. Donc à ce moment-là, il essaye de communiquer avec Léopoldine. Donc on installe un guéridon à trépied sur une table, on attend que les esprits dictent des mots. Donc c'est les débuts du spiritisme, le code spirit, c'est... si les esprits font un coup, c'est la lettre A, s'ils font deux coups, c'est la lettre B, et ainsi de suite. Donc du coup, ça pouvait durer très très longtemps, les séances de spiritisme pouvaient s'étendre comme ça toute la nuit, mais à la fin, on sortait avec des textes qui auraient été dictés par les esprits. Donc c'est comme ça que Victor Hugo commence, c'est lui qui s'occupe de rédiger ce que disent les esprits. Donc il commence D'accord. sa première séance de spiritisme, et à son grand étonnement, à la première séance, ça fonctionne, il arrive à entrer en contact avec l'esprit de Léopoldine, et à partir de ce moment-là, il est convaincu, il est complètement mordu de spiritisme. Pendant 2 ans et demi, il va organiser des séances de spiritisme, parfois plusieurs fois par jour. Et là, ça part complètement en vrille, c'est-à-dire qu'il dit qu'il va parler à Dante, qu'il va parler à Hannibal, qu'il va parler à Molière, à Platon, à Galilée, même à Jésus-Christ, lui-même.
Ah, il va citer toutes ces personnes.
Il cite dans un livre qu'il a écrit plus tard, dans lequel il revient sur ses séances de spiritisme, et il dit qu'il a même eu Shakespeare en direct, qui lui a soufflé un poème, donc il y a un des poèmes de Victor Hugo qui serait en fait un poème de Shakespeare. Et c'est pas uniquement des esprits de personnes célèbres, il dit aussi qu'il a parlé à des animaux, et des animaux célèbres, comme la colombe de l'Arche de Noé.
Il a parlé
oui, il
à un
qu'il
animal
a communiqué avec des animaux en séance de spiritisme, qu'il a aussi communiqué avec des concepts, carrément, qu'il a dialogué avec la mort, avec la poésie, et même avec la blague, avec l'humour, avec voilà, des notions qui, comme ça, sont abstraites, mais qui lui seraient apparues en tant qu'esprit, et qui auraient communiqué avec lui à travers ses séances de spiritisme. Donc il a consigné tout ça pendant 2 ans et demi, donc il existe 4 énormes carnets de Victor Hugo qui sont entièrement consacrés à ces séances de spiritisme qui avaient lieu dans cette petite maison isolée, battue par les vents, sur l'île de Jersey.
Ok, d'accord. Mais du coup, en termes de droit, tout ce qui est plagiat, du coup, comme c'est Shakespeare qui lui a soufflé,
alors,
ça
attends,
se passe
parce
comment
que j'y viens, parce qu'il y a, pour le moment, tout ceci pourrait être assez mystérieux. On a un petit peu du mal à y croire, hein, je te l'avoue. Mais là où c'est...
Ah non, moi, pas du tout, moi j'y crois. Moi, je vais bien croire qu'on dialogue avec
ça,
l'humour.
Ça fait très personne folle, tout ça, la personne qui parle avec Aristote, avec Platon. Mais le problème, c'est ce qui arrive après. En fait, au bout de 2 ans et demi de spiritisme intensif, Victor Hugo arrête tout. Parce qu'en fait, il y a un homme qui côtoyait dans les séances de spiritisme qui a complètement vrillé. Un jour, il a débarqué chez lui, complètement agité. Victor Hugo écrit qu'il était comme possédé. Il hurlait des menaces, il brandissait une arme. Et c'est à ce moment précis que Victor Hugo prend conscience que bah, lui aussi pourrait sombrer dans la folie comme ce monsieur et partir complètement en vrille comme ça, proférer des menaces et être extrêmement agité comme possédé. C'est donc à cet instant qu'il décide d'arrêter net toutes les séances de spiritisme. Il se retire complètement de ce monde, il n'en fait plus du tout. Il avait une amie avec laquelle il organisait tout ça, il s'en éloigne, donc il quitte complètement ce milieu. Et c'est justement une fois qu'il arrête de communiquer volontairement avec les esprits qu'il s'impose à lui. En fait...
Ah, que les esprits décident de pas arrêter
ça,
la communication.
C'est ça, comme s'ils étaient restés accrochés à lui, bah, comme on connaît les histoires, hein, les gens qui font des séances de planches Ouija, et les esprits, voire les démons, restent accrochés à eux, c'est ce qui se serait passé.
Oui, c'est après, c'est ce qu'on commence à appeler
c'est
la possession.
Ça, c'est d'abord, les démonologues, si on peut les appeler comme ça, disent que la première étape est l'infestation, c'est-à-dire c'est le moment où les esprits se font de plus en plus présents, et c'est ce qui s'est passé pour Victor Hugo tout au long du reste de sa vie. En fait, il est resté hanté jusqu'à la fin de sa vie, il entendait régulièrement des frappements dans les murs, des respirations, parfois toutes proches, il avait l'impression qu'on le frôlait dans les pièces, ses nuits étaient évidemment affreuses, il avait du mal à dormir, il avait l'impression qu'il y avait des forces qui s'animaient dans sa chambre le soir, et ça c'est resté comme ça pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'il meure. Les fantômes, les esprits, comme il les appelait, sont restés avec lui jusqu'à la fin de sa vie, et c'est justement ça que je trouve très mystérieux.
En effet, oui, ça l'est. Et ça a été, c'est des carnets qui ont été découverts il n'y a pas longtemps.
C'est des carnets qui ont été, donc on a pris leur existence de son vivant, et d'ailleurs ils sont aujourd'hui, on peut les acheter.
D'accord,
enfin, okay. On peut pas tous les acheter. La moitié des notes qui avaient été prises par Victor Hugo durant cette période-là sont disponibles dans un livre qui s'appelle Le Livre des Tables, justement le Livre des Tables de spiritisme, qui est édité chez Folio un peu partout. Enfin, on peut le trouver en magasin, quoi. On peut le trouver chez les libraires, et c'est assez assez fascinant comme lecture. Parce que justement, on ne sait pas s'il a vraiment communiqué avec des esprits. Personnellement, ma thèse, c'est que non, évidemment, parce que j'ai du mal à y croire. Mais ça reste quand même très mystérieux, et il y a peu, finalement, d'explications là-dessus. Toi, à ton avis, qu'est-ce qui aurait pu se passer ?
Ce qui aurait pu se passer, bah, je pense que comme tout écrivain, il y a besoin d'avoir une matière sur laquelle écrire. Et je pense que c'est une super matière. Je pense qu'il a, il se donnait un petit peu comme des expériences ou des choses comme ça pour après avoir des sources d'inspiration, même pour des choses qui n'ont après strictement rien à voir. Mais peut-être qu'il y avait comme ça la recherche d'une forme d'inspiration ou de quelque chose comme ça. Mais après qu'il soit devenu fou après ça, enfin qu'il ait continué à en entendre. Ça oui, c'est un peu plus bizarre. Il a continué à prendre des notes après les séances de spiritisme.
Non, il a arrêté parce que justement, il pensait sûrement que ça, comme par exemple Mika dans Paranormal Activity, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand tu continues en fait à pousser le truc, ça ne fait que renforcer le pouvoir de nuisance de l'esprit en tout cas qui te rentrait quoi. Donc il a dû se dire que s'il arrêtait tout, ça s'arrêterait. Malheureusement, ça ne s'est jamais arrêté. Donc si cette partie-là de l'histoire reste extrêmement mystérieuse, c'est quand même bizarre qu'il ait entendu des respirations juste à côté de lui, l'impression qu'on le frôlait et tout, ça c'est très étrange. En revanche, pour la partie où il prenait des notes avec le spiritisme, en fait, on pense aujourd'hui avec du recul, certains analystes de l'œuvre de Victor Hugo se demandent si c'était pas une des premières formes d'écriture automatique. Tu connais, ça a été ensuite développé par d'autres courants littéraires. Mais on pense que c'est à ce moment-là que Victor Hugo, avant que ça existe vraiment, parce qu'à ce moment-là, le courant n'existait pas de l'écriture automatique, on se demande si Victor Hugo n'a pas créé ça à ce moment-là, sans être capable de donner un nom, de mettre un nom dessus. Et comme il était persuadé que le spiritisme, c'était réel, il s'est dit, c'est peut-être vraiment des esprits qui m'ont communiqué ça. Peut-être qu'il écrivait juste simplement dans le style d'Aristote, dans le style de Platon, et qu'il se disait, c'est eux qui nous ont parlé. Ça pourrait être une explication. En tout cas, le mystère reste aujourd'hui entier, et malheureusement, on est obligé de classer l'affaire, parce qu'on ne saura, je pense, jamais vraiment si Victor Hugo était réellement hanté ou s'il était juste fou.
On pourrait se lancer dans quelque chose qui serait de lire l'œuvre complète de Victor Hugo et d'essayer d'y retrouver des références, mais je suis pas sûr d'en avoir.
Je m'étais un petit peu renseigné là-dessus. Il y en a effectivement dans certains ouvrages. Au moins, il évoque des créatures marines très effrayantes. D'ailleurs, il les a dessinées, les ocriniers, et on suppose que c'est une référence directe aux formes étranges qu'il voyait régulièrement la nuit.
D'accord.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci de nous avoir écoutés.
Et merci aussi pour vos retours sur notre numéro 0 et merci pour vos conseils. Comme vous pouvez le constater, la formule a radicalement changé entre le numéro 0 et le numéro 1, mais c'était ce qu'il nous fallait en fait pour nous lancer. Donc nous en prenons bonne note et surtout continuez à nous envoyer des histoires parce que nous ça nous permet de moins travailler en fait.
Oui, merci pour vos histoires. Vous avez été quelques-uns à nous en envoyer pour le moment suite au numéro 0, ça fait très plaisir. Évidemment, on a commencé à regarder, il y en avait quelques-unes qu'on connaissait déjà, quelques-unes qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre grâce à vous. Donc c'est super cool, continuez à nous en envoyer. Et d'ailleurs, mon cher Charles, est-ce que tu pourrais nous dire comment qu'on fait pour nous envoyer des histoires
hein? Comment qu'on fait pour nous en envoyer? Les moyens modernes, tu vois, genre les réseaux sociaux, sur @IFRPodcast pour ce qui est de Twitter, sur notre page Facebook inspirée de faits réels, envoyez-nous aussi des DM, envoyez des DM à Mathias, moi je les lis jamais, mais Mathias il les lit. C'est ça, hein, Mathias, tu lis bien tes DM.
Exactement, je lis tous les DM que l'on reçoit, que ce soit sur notre compte IFR Podcast ou sur mon compte personnel. Peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent que le Bureau des Mystères. Ne vous étonnez pas, si on vous incite à aller sur la page inspirée de faits réels ou sur IFR Podcast pour nous laisser des messages, c'est parce que nous avons une autre émission qui s'appelle Inspirée de faits réels que vous pouvez écouter si ça vous intéresse.
Exactement.
Et donc voilà, on est plus souvent sur cette page-là que sur la page d'Henri Michel, puisque c'est la page d'Henri Michel par définition.
Ouais, voilà. Une fois qu'on aura nos propres locaux et tout, on vous renverra vers ceci.
Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de se dire au revoir, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec encore plus de mystères.
Et d'ici là, vérifiez bien ce qu'il y a sous votre lit avant de vous endormir.